Bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bon samedi matin en écoutant Art District. C'est Julie Chaise-Martin et je vous propose d'écouter tout de suite Hors des cadres, l'émission consacrée aux expositions et événements d'art urbain et de street art.
Ans qu'on travaille la terre dans cette ville. Elle est célèbre pour les tomettes de Salerne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un musée de la céramique a une légitimité. Et ce musée, il s'appelle le musée de la céramique architecturale.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Hors des cadres sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et aujourd'hui je suis à la galerie Brugier-Rigal au 40 rue Volta à Paris dans le 3e arrondissement tout près de la place de la République et nous allons parler de la 4e biennale de la céramique de Salerne qui accueille cet été et jusqu'en octobre 10 street artistes de renom. Alors je les cite tout de suite, nous aurons Nick Walker, Mystique, Monsieur Chat, Nasty, L'Atlas, Le Valet, Jacques Villeglet, Jérôme Ménager, Yang Munji et Speedy Graffito. Ils vont tous relever un défi que vous leur avez lancé, Guimoc, celui de s'attaquer à l'art de la céramique. Bonjour Guimoc et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour, mon tour, et merci de votre invitation.
Alors, merci beaucoup d'être dans l'émission Hors des cadres sur Art District. Vous êtes donc l'heureux commissaire de cette exposition estivale sous le soleil du Sud, dans le Var, organisée à la Maison de la céramique architecturale Terra Rossa de Salerne. Alors, avec vous aujourd'hui, j'aimerais qu'on présente d'abord cette grande exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Racontez-nous, Guimoc, tout simplement, comment est née cette idée déjà d'inviter 10 street artistes dans ce musée de la céramique précisément, et comment vous, grand connaisseur du street art, vous avez sélectionné ces 10 artistes?
Il faut savoir que cette biennale est donc la 4e, que chaque fois on a essayé d'amener un thème précis et différent, de ne pas faire ce que font les musées classiques, c'est-à-dire d'aller chercher un artiste et le mettre autour. Donc, on cherchait une idée. Il y avait plus d'un an, que, avec mes amis Brugier et Rigaille, on discutait du problème de créer la première statue street art au monde, en céramique. Et en disant, c'est un matériau extraordinaire qu'on peut offrir aux artistes pour se confronter avec un autre matériau. C'est ce qu'avait fait Madame Ramier quand elle a demandé à Picasso de lui faire les fameuses assiettes Madura. C'est la même idée, c'est-à-dire que l'artiste ne se renie pas, on ne lui demande pas de changer sa palette, sa touche, il faut qu'on le reconnaisse, pareil, mais sur un matériau différent, avec des exigences très importantes. Voilà comment les choses sont parties. Et quand le musée Terra Rossa m'a demandé de présenter la 4e biennale, j'en ai reparlé avec messieurs Brugier et Gaille, qui ont accepté de devenir éditeurs et de prendre tous les risques, il faut les féliciter, pour éditer. Donc on a contacté en disant une biennale, c'est pas un artiste, et c'est de là qu'est venue l'idée d'aller jusqu'à 10.
Voilà, donc il y a 10 artistes, et il faut préciser, donc on est justement à la galerie Brugier-Rigal à Paris, qui est spécialisée dans le street art.
Dans le street art, qui à mon avis est une des meilleures galeries françaises, parce qu'ils ont une double position. Ils ne sont pas simplement galeristes récupérants, mais ils sont également éditeurs et promoteurs d'art.
Alors quand vous dites que ces céramiques vont être éditées, à combien d'exemplaires? Comment ça va se passer concrètement?
Alors concrètement, pour qu'ils puissent s'y retrouver, donc on vendra des pièces, mais ce sera d'une part soit sur des séries d'originaux qui s'arrêtent à 8 par essence, et ou sur des multiples mais qui seront pas plus de qui ne dépasseront pas 20 ou 25 pièces. Parce que il faut pas oublier que c'est de l'artiste, ces pièces, ils ont accepté mon conseil d'aller dans la meilleure, probablement la meilleure usine. Usine n'est pas bon,
atelier
je préfère, de céramique, qui est en Bourgogne, qui s'appelle la Tuilerie de Trégny, avec lesquels on avait déjà fait du Zaouki, Corneille, Cruz Diez, des gens de cette qualité, qui est vraiment une maison magnifique. Et évidemment, ils ont accepté de mettre un peu plus pour donner tout de suite le meilleur outil possible en France. Par contre, il faut savoir que c'est lent, parce que c'est du vrai artisanat, qu'il y a des contraintes comme le séchage qui sont longues, donc on ne peut pas partir dans des séries énormes.
Oui, alors justement, il y aura un maître de fabrication en céramique qui va accompagner chacun des 10 artistes.
Alors, le directeur de cet atelier s'appelle Jean-Marie Foubert et c'est un immense chimiste. Parce que pour faire de la bonne céramique, il faut être un grand chimiste. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est capable de trouver la bonne chimie pour la bonne coloration des pièces. Voilà.
Alors, le musée donc, de la céramique Terra Rossa de Salerne a accepté cette idée d'inviter 10 street artistes. Vous qui les avez sélectionnés, Guy Mock
J'ai participé à la sélection avec M. Bruju et Rigaï, puisqu'ils ont une gamme large sur laquelle ils travaillent. Et je leur ai donné des orientations qu'ils étaient libres d'accepter en tant qu'éditeurs ou de refuser.
C'est-à-dire que ce sont des street artistes qui sont tous représentés par cette galerie?
Pas forcément. Pas forcément, c'est des artistes qui ont déjà souvent exposé ici, mais pas, on n'est pas les agents de ces gens-là.
D'accord.
Ça, il faut bien être clair, on n'est pas les agents. Mais par contre, on a été les voir, en particulier, M. Bougier s'est énormément dépensé pour ça, pour obtenir des contrats. Puisque les street artistes contemporains sont des gens très organisés, avec agents, avocats, etc., etc.
Donc, tout est bien cadré.
Tout est bien cadré.
Mais alors, quand on pense à art urbain, à street art, effectivement, on se dit que c'est plutôt des œuvres un peu éphémères. Or, la céramique, c'est un matériau qui dure dans le temps, qui est très pérenne. D'ailleurs, on retrouve, comme vous nous le disiez tout à l'heure, des céramiques lors de fouilles archéologiques. Et justement, à Salerne, on a retrouvé des céramiques datant de plus de 7000 ans, je crois.
Ouais.
Donc, parmi les plus anciennes, finalement.
Et on a la plus belle collection française de carrelage de sol, qui était la collection Fay, qui est connue de tous les universitaires.
Voilà, une collection de carrelage coloré, je crois.
Sur 1000 ans.
Sur 1000 ans, du Moyen-Âge jusqu'à.
Voilà, le carrelage de Rouen, le carrelage du Pré d'Auge, les carrelages de Marseille, etc.
Donc, le musée a une collection permanente déjà.
Permanente de carrelage. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé il y a 10 ans de collaborer avec eux, parce qu'ils cherchaient quelque chose de moderne, de vivant, parce que les carrelages attirent des spécialistes, mais pas le grand public.
Oui.
Donc ils ont cherché une opération, ils ont donc dit on va faire une biennale, ne voulant pas faire l'équivalent de Valoris, ils m'ont demandé si je pouvais amener des thèmes nouveaux. C'est comme ça que, si vous voulez, les choses ont évolué chaque fois.
En parallèle du savoir-faire sur le carrelage et les fameuses tomettes tout le monde connaît.
Non, mais par exemple, la troisième biennale, j'ai été chercher le Kraft, qui est le centre recherche des arts du feu, la collection du Kraft, et on a fait avec le Kraft, si vous voulez, où on a travaillé non pas sur les plasticiens, mais sur les designers. Donc, vous voyez bien qu'on évolue chaque fois.
Mais alors là, du coup, moi je disais street artist, effectivement, on pense à des œuvres un peu éphémères. La céramique, comment on réagit ces artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de créer des œuvres qui durent dans le temps?
Alors, si vous voulez, d'abord, ils ont bien réagi parce qu'un artiste, par essence, est curieux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je voudrais m'élever contre la notion d'éphémère. Je suis absolument pas d'accord sur cette notion, quand les gens disent ça va être éphémère, etc. Pas du tout. Parce que c'est vrai que l'art est fait de mouvements successifs. Bon, moi, j'ai beaucoup vécu le Cobra, et aujourd'hui, il ne reste plus que M. Alain Chinsky.
Oui.
Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi le street art marche, ça, c'est une chose qui, à mon avis, est fondamentale. C'est parce que Aujourd'hui, les artistes street art qui émergent sont des gens qui ont entre 35 et 50 ans, qui à 80% font des études plastiques, ce que les gens ignorent. Mm-hmm. Bon, ils ont été dans les écoles de beaux-arts,
ils ont
appris.
Ils ont une formation.
Ils ont une formation, ce n'est pas du tout des gens qui font les choses comme ça. Mais par contre, leur culture, c'est la même que les gens qui regardent leurs toiles, qui les font vivre ou les estampent. Mm-hmm. Et c'est les médias, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est les BD, c'est les comics, c'est les médias, c'est la publicité, c'est ça leur culture, ce ne sont plus les livres. On est en train de prendre un virage absolument énorme, c'est plus le livre qui sert de base. Par exemple, si vous prenez un monsieur Garouste, qui est un grand peintre, mais c'est les livres qui ont servi de base, la Bible ou ce que vous voulez, l'Évangile, eux, pas du tout. Donc ça, c'est fondamental, et ça veut dire que nous partons sur un mouvement qui va être le mouvement de ces gens de 35 à 50 ans qui achètent au moins pour une génération. Et ensuite, évidemment, il y aura un autre mouvement qui naîtra, mais ça, c'est le mouvement de l'art. Et au travers de cela, évidemment, il est clair qu'il y aura des artistes qui vont perdurer. D'autres mourront, mais ça, c'est le jeu permanent de l'art.
Alors, à une petite exception près, peut-être, si je puis me permettre, c'est Jacques Villeglay qui, lui, n'a pas le même âge que les autres, qui est beaucoup plus vieux. Il est né en 1926, je crois.
Ouais.
C'est un grand monsieur de tous ces courants d'affichistes, en fait. Ouais. Alors, lui, il est dans la sélection des...
Oui, parce que c'est un monsieur qui, justement, qui valide, d'une part, qui valide
le
street. Parce que moi, le street, pour moi, on a commencé à graffer. Quand on a graffé, il y a 50 ans, à New York, c'était Basquiat, on entend un peu parler, Futura, Kissering. Ils ont tagué les premiers le métro de New York, c'est pas nouveau. Bon, ensuite, vous avez un type comme Matos Crash, qui a tagué des murs, qui a été poursuivi à l'époque, comme ça s'est fait en France. Et le mur en question, il a été racheté, 25 mètres de long, par un promoteur. Et ça s'appelle le Bovary, et ça fait partie des lieux touristiques visités aujourd'hui dans New York. Donc, c'est, si vous voulez, c'est une période longue peut-être, mais courte en même temps.
Oui.
Et il faut comprendre, et on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais un jour on en parlera si vous voulez, c'est né depuis ce moment-là. Ça a mûri au travers de tous les mouvements intermédiaires, et maintenant ça explose sur le grand public. C'est passé à travers tous les mouvements, comme le pop, comme la figuration narrative, etc. Voilà. En deux mots, comment les choses se sont arrangées. Et là, tout d'un coup, c'est comme une graine qui a parce qu'ils ont eu ce coup de génie absolu de trouver ces écrans de la rue, que sont les ruines, et qui ont permis pour eux de se montrer.
Alors, parmi ces 10 street artistes, Guy Mocq, vous les connaissez bien, j'imagine. Est-ce que vous pouvez un petit peu les présenter? Bon, on vient de parler rapidement de Jacques Villeglay. Les présenter aux auditeurs, voilà, pour qu'ils resituent un petit peu qui sont ces artistes qui vont exposer lors de cette quatrième biennale.
Ils sont très différents, justement. Ça prouve aussi qu'on n'a pas voulu du tout dire on fait de l'artiste français, on a fait de l'artiste de qualité. Ça, c'est déjà une notion importante, c'est pas français. L'art est international et on a voulu nouveau reproduire cet art international, ça c'est important. Alors, vous me disiez Villeglay, c'est d'accord, Villeglay a une place, mais vous avez par exemple Jérôme Ménager, qui n'est pas si jeune que ça, qui a fait l'école Boulle à Paris, c'est une belle référence, et qui a imposé son bonhomme blanc à travers le monde. Les astronautes,
avant Thomas Pesquet,
exactement, on dit qu'ils voyaient de la Lune sur le mur en Chine, ils avaient vu le bonhomme blanc. Il faut savoir que Ménager aussi a été failli aller en prison à New York parce qu'il avait mis le bonhomme blanc sur la prison de New York il y a 30 ans. Donc, si vous voulez, ça, c'est une notion nouvelle. Alors, vous avez un monsieur aussi très intéressant, c'est par exemple Nick Walker, qui est moins connu des Français. Alors, Nick Walker, c'est un homme de Bristol. Ça vous parle, l'école de Bristol, avec monsieur Bansky.
Et, oui,
et donc, Walker a été repéré, et le dernier film de Kubrick, c'est lui qui a fait les décors, parce qu'avant, M. Kubrick a toujours montré les tableaux de sa femme dans les films. Il ne prenait jamais personne. Il a été amoureux de ça, et il a pris Walker pour faire ses décors de son dernier film. Et aujourd'hui, Walker fait en plus des tableaux, des toiles. Il produit relativement peu, mais de bonne qualité. Il est aux États-Unis et il fait des shows et des installations. Mmh. Voilà, donc ça c'est Walker. Si vous prenez Nasty, Nasty est un cas très intéressant. Nasty, c'est le français et c'est le pur et dur qui est le premier à taguer le métro de Paris. Donc ça mérite quand même un peu de reconnaissance. Et en plus, il a beaucoup de talent parce que c'est un talent qui n'est pas, comment dire, réfléchi. C'est un talent brut. Autrefois, on avait l'art brut à un moment. Nasty, je dirais qu'il se rapproche quelque part de cet art brut, de Nachessac, de gens comme ça. Mm-hmm. Parce que l'art, c'est toujours une filiation. Il y a toujours quelque part, on peut trouver des racines.
Bien sûr.
Et après lui, il y en aura un autre qui s'inspirera et qui évoluera. C'est naturel, c'est une chaîne permanente. Voilà, est-ce que vous en voulez encore d'autres?
Mais si... Eh bien, peut-être Monsieur Chat, que peut-être les auditeurs connaissent un peu mieux parce qu'il est plus connu du grand public.
Alors, Monsieur Chat, c'est un monsieur qu'on voit partout, sur les murs, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est un phénomène social, Chat. Et ce phénomène social est absolument étonnant. L'année dernière, j'avais 2 mois, j'ai fait une galerie éphémère à Honfleur, où les gens ont fait la queue.
Dans vous une voyez, petite vous utilisez rue. Le mot éphémère.
Oui, sur 22 mètres, et on va la refaire cette année, tellement c'était formidable. Et là, on a découvert une chose étonnante, c'est qu'on avait fait faire la façade par M. Chat, que West France, les grands journaux ont photographié, etc. Et l'histoire, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est que vous aviez plein de gens qui n'étaient jamais rentrés dans une galerie d'art, qui n'avaient jamais acheté une œuvre d'art, qui sont rentrés, souvent tirés par les enfants, en disant, nous voulons une pièce de Monsieur Chat. Chat, c'est un phénomène social, ça va plus loin. Comme souvent, dans le street, c'est un autre volet, mais c'est un volet important, c'est que souvent, il y a une connotation sociale chez ces artistes que n'avaient pas leurs prédécesseurs. Et bon, ce qui est...
Bien sûr. Et ça permet effectivement de toucher aussi d'autres publics qui n'étaient pas du tout intéressés par rentrer dans une galerie qui en avait peut-être
même un peu peur.
Alors
ça, c'est une question fantastique.
Un peu peur, oui.
Alors, on s'est amusé, on a eu beaucoup, beaucoup de clients, d'une façon étonnante. Hein. Vraiment, on le dit franchement, il ne faut pas tricher, c'était une réussite exceptionnelle. Et on a analysé, à la sortie, la nature sociale des gens qui nous ont achetés. Puisqu'on leur a dit qui vous êtes, etc., puis beaucoup parlaient. C'était à la fois leur premier achat d'art, ils n'étaient jamais rentrés dans une galerie, et on a... Ça situe entre 70 et 80%.
Ah oui.
Sur 2 mois.
Ce qui est énorme, oui.
Voilà, sur plusieurs dizaines de clients. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez bon, c'est un bon panel. Et ça répond un peu à votre question. Je crois que le chat est vraiment un phénomène social. Alors, il y a une double notion, c'est qu'au départ, il était comme beaucoup de street art, on le voyait pas. Hein, beaucoup de street artistes, on les voyait pas. Et
il se cachait derrière une capuche, etc. Voilà, il ne voulait pas montrer leur visage.
Il avait fait les Beaux-Arts d'Orléans, mais en fait, il est suisse. Bon. Et les gens confondaient au départ, ces gens qui ne connaissaient rien dans l'art, mais qui étaient attirés pour de bon, confondaient avec Géluc, bien sûr.
Ah oui, Géluc, oui.
Qui est belge. Donc voilà, c'était ça le truc. Mais l'un est un journaliste rentré et l'autre est un monsieur qui s'appuie sur la cité. Ça, c'est très important. Tout ce qu'il fait, vous voyez derrière, des lignes, des verticales, des horizontales, c'est la cité. Et on arrive là à l'urban art. Parce que, en fait, qu'est-ce que l'urban art, si vous voulez, le street art est inclus dans l'urban art. C'est-à-dire que ces gens, et là aussi c'est une ouverture nouvelle, peut-être que vous en parlerez dans 2 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est plus street art, c'est une rue dans la cité. Donc il y a une rue, effectivement, qui continue, mais il s'intéresse à toute la cité. Et vous avez, par exemple, un exemple formidable sur une édition qui a été éditée, qui a été faite ici, sur les Monkey Bird.
Oui.
Et vous voyez, ce sont des structures de ville déjà. Ce n'est plus juste un graphique quelconque fait. Et je ne peux pas vous en parler, mais je travaille en ce moment sur un énorme projet avec un groupe d'architectes, et c'est urban.
C'est-à-dire que les architectes actuels
sont
très intéressés par ces artistes d'art urbain.
J'ai 2 groupes d'architectes qui m'ont demandé de travailler avec eux. Donc on va faire des choses dans ce domaine. Je vous en parlerai en son temps. Pour l'instant, ce n'est pas fini.
Alors, puisqu'on parle d'architectes, on va préciser que le musée de la céramique de Salernes a été conçu par un célèbre architecte qui s'appelle Jean-Michel Villemotte.
Absolument.
Donc il y a ce bâtiment qui est évocateur. C'est un lieu aussi peut-être source d'inspiration puisque je crois que c'est une ancienne usine de fabrication justement de céramique là où est actuellement
Absolument,
le musée.
Absolument, on a les fours, on a tout.
Voilà. Et donc ça aussi
donc c'est
très
aussi très intéressant pour les gens, je dirais, sous deux aspects. Il y a l'aspect pittoresque, si vous voulez, comme la Fondation Mecht avant, c'est un bel endroit à visiter.
Bien sûr.
En plus, c'est à la porte des Gorges du Verdon, donc c'est une belle région. Et en plus, il y a un côté didactique pour les enfants. Les enfants adorent voir comment on fabrique les carreaux.
Oui, il y a un procès, il y a le procédé de fabrication qui est expliqué.
Et est complètement mis en valeur et mis en scène.
Et alors, les artistes, les 10 artistes d'art urbain donc, qui sont invités cet été, j'imagine qu'ils ont aimé ce lieu aussi pour...
Alors, beaucoup ne le connaissaient pas, mais on leur a montré bien sûr des photos, ils ont vu les vidéos, ils ont été chercher un petit peu partout. Et c'est clair que le lieu les intéresse, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir leur réaction après la saison. Parce que s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas, et c'est ça qui est intéressant, il y en aura certainement qui diront, bon, c'est peut-être difficile pour nous, peut-être, ils ont vu toutes les difficultés, maintenant ils savent devant quel problème ils peuvent se trouver, mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui sont en train de se passionner. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais c'était aussi le défi de voir qui allait aller plus loin. C'est le problème, quand Picasso a commencé, il y a eu des suiveurs,
oui,
d'autres artistes qui ont été dans la même ligne et d'autres qui ont refusé. Aujourd'hui,
alors, j'imagine qu'il y a une scénographie particulière peut-être à laquelle vous avez pensé.
Alors oui, alors ça c'est un deuxième aspect de ce que nous avons fait. J'ai proposé à ce moment-là de faire des présentations en miroir parce que il est évident que nous n'avons pas encore une foultitude de pièces puisqu'on a créé ces pièces, mais
chaque artiste a créé combien de pièces à peu près?
On va avoir une quarantaine de céramiques. Mais ce qu'on présente en face, une toile ou deux toiles de chaque artiste qui est présentée, une toile qu'il faisait il y a 15-20 ans, c'est-à-dire les toiles historiques du street.
D'accord.
Que nous avons présentées d'ailleurs à Compiègne. Et on a fait une exposition sur le street art historique là-bas. Et là, donc, les gens verront en miroir des toiles de ces artistes, donc ça va leur donner encore une nouvelle dimension pour les découvrir, et également de montrer l'évolution en 15-20 ans du même artiste. Donc c'est toujours le même artiste, mais c'est quand même un artiste qui a évolué, puisque l'un, on a des références très précises, et l'autre, on est dans le vide. On ne sait pas quelle va être la réaction des artistes, mais n'oubliez pas aussi la réaction du public.
Oui.
On a deux réactions qu'on attend.
Sûr.
Il n'y a pas qu'une réaction. Donc, on ne sait pas, et c'est ça aussi le jeu et le défi de cette biennale, de montrer aux gens, de leur montrer quelque chose de neuf, mais leur donner une référence sur laquelle ils peuvent se fixer, c'est-à-dire la toile qu'ils connaissent souvent. Bon, je pense qu'on aura des gens qui connaissent parfaitement ces artistes, parce qu'ils les ont vus ailleurs, etc. Et donc, ça va les aider à se fixer et à dire « Ah, c'est fantastique », ou au contraire, « J'aime pas », ils ont le droit de le dire. C'est ça, l'art.
C'est ça l'art, tout à fait. Et pour la plupart de ces artistes, c'était la première fois peut-être qu'ils réalisaient une œuvre en céramique.
Ah oui, mais c'était
c'était justement
des artistes
ce défi-là.
Qui n'avaient pas l'habitude de la maîtrise. Je crois que Villeglay en avait fait une, mais pas très connue ni très conséquente.
Voilà, donc un vrai défi, hein. C'est le
Là, c'est un vrai défi avec. On leur a offert le meilleur atelier de France, le meilleur chimiste. C'est pas mal.
Alors, est-ce que vous savez déjà lesquels ont apprécié l'art de la céramique?
Alors, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui... si vous voulez, moi, le musée a fait appel à moi parce que je m'étais occupé de la commercialisation d'œuvres céramiques des Cobras. Donc, ils savaient ça. Et aujourd'hui, on a déjà des gens qui savaient que... On lance ce défi qu'on allait faire des céramiques et qui ont donc acheté ou qui sont déjà sur le point de nous les commander.
Oui, parce que toutes les céramiques sont à vendre. Hein.
On sera obligé de les vendre puisque, si vous voulez, on a fait. C'est le privé qui a investi, c'est-à-dire M. Bruget et Gaille, qui ont eu le courage parce qu'ils pouvaient tout perdre. Donc moi, je tire le chapeau. Ce sont des gens très courageux, outre le fait qu'ils sont sympas. Et donc. Il faut bien que moi je leur apporte la solution du remboursement. Ce sont des, autrement, la galerie mourrait, leur galerie, leur édition. Donc il faut bien qu'on les vende. On les vendra à des prix très très raisonnables. On a choisi la politique, non pas une grande politique, c'est-à-dire que ça permet à n'importe quel cadre, n'importe quelle personne de profession libérale, oui, de se acheter une œuvre d'art, mais parce qu'on croit dans l'avenir. Mais je reviens à nos assiettes Madura, il est clair qu'au départ, elles étaient beaucoup moins chères qu'elles le sont aujourd'hui.
Et ça, c'est l'avenir
qui
le dira, exactement.
Mais vous comprenez bien qu'on était obligé de donner une possibilité à nos financiers de se retrouver, au moins de récupérer leurs billes.
Alors, avant de nous quitter, Guy Mock, je crois qu'on a fait un tour déjà assez complet de la présentation de cette exposition avec vous. Peut-être, vous avez déjà évoqué votre galerie éphémère à Honfleur. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Comment vous êtes tombé dans le street art, l'art urbain? Je pense que ça date peut-être d'il y a longtemps, mais...
Ça date de longtemps,
est-ce qu'il y a des souvenirs? Voilà, d'où provient cette passion?
Bon, moi j'ai eu une carrière variée et riche qui était au départ basée plus sur la création d'idées sous toutes formes. Puisque pendant 8 ans, j'ai fait les collections, tout ce qui était édition, tout ce qui était rentrée des classes, tout ce qui était présentation USA, etc., pour les Galeries Lafayette, à la centrale d'achat des Galeries Lafayette.
Avec un
énorme succès, vraiment. Mm-hmm. Bon, et j'ai quitté les Galeries Lafayette, où j'avais créé beaucoup de choses. Par exemple, toutes les semaines, j'avais la sœur de Françoise Giroux qui passait, qui s'appelait Jeannanne Chapat, Madame Trouvaille, et qui me disait « qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau ?»
Madame Trouvaille, c'est son surnom.
Trouvaille. Donc j'ai travaillé avec ces gens, la presse féminine, beaucoup à l'époque. Mm-hmm. J'ai acheté, pour l'exposition USA des Galeries Lafayette, deux lots d'affiches, mm-hmm, en son temps. Et ces lots, c'était des affiches qui étaient en style art déco, nouilles. Mm-hmm. Et c'était les affiches de M. Chuck Berry pour les deux premiers grands dance floors, la Valonne et le Fillmore. J'ai acheté ça pour décorer l'exposition USA où je montais la partie bazar des Galeries Lafayette. Moi, je ne me suis jamais occupé ni de vêtements, ni de nourriture.
Bon,
la partie bazar, etc., c'est monter l'exposition USA. Donc, j'ai acheté ça pour faire un décor. En deux jours, il a fallu mettre un prix parce que c'est des grands magasins. En deux jours, tout était vendu. Tous les gens du 16e, les lycées Janson de Sailly, etc., s'étaient donné le mot. Et tous ces jeunes sont venus comme des fous acheter ces affiches. On les a vendus en deux jours, les affiches du Fillmore et de la Valonne. Et ça, comme j'avais vu à l'époque les premières affiches des hippies de Socialito, je me suis dit, dans le graphisme, il y a quelque chose d'énorme à faire. Et j'ai donc amené en France, j'ai quitté les galeries, parce que j'en avais ras-le-bol d'Innofrance. Et donc, je suis parti. Et j'ai créé le gimmick. Gimmock, c'était gimmick.
Et c'est, pas mal, oui.
Et donc, ça a été une histoire absolument fabuleuse. On a commencé place Saint-Germain-des-Prés. Mm-hmm. C'est toute une histoire que un jour je vous raconterai, mais qui est absolument étonnante.
Ça fera l'objet d'une deuxième interview.
Donc j'ai démarré avec les posters américains.
D'accord.
Sur la place Saint-Germain-des-Prés. Et après, Castel a fait une boutique de nuit. Enfin, c'est toute une histoire fantastique. Et elle a été vendue aux Allemands. Ça existe toujours. Ça s'appelle le Poster Shop à Munich. C'est d'accord, devenu le Poster Shop à Munich. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai dirigé une très grosse imprimerie et Enrico Navarra, que vous connaissez, donc, est venu me chercher pour lui diriger ses éditions.
D'accord.
Voilà.
Donc là, il y a
là, je suis parti
le
beaucoup
lien
plus
avec
dans,
l'art.
Voilà. Non, mais ça a toujours été, parce que pendant les 8 ans où j'étais aux galeries, j'ai fait la moitié du monde pour eux. Et c'était connu pour une raison, c'est que j'étais le seul qui ne venait pas déjeuner avec eux, qui faisait les musées. Pendant 8 ans, j'ai fait les musées du monde aux frais des Galeries Lafayette. Et c'est vraiment eux qui m'ont permis d'apprendre et de découvrir des choses qui m'intéressaient. Quoi.
Mais un vrai passionné, vous êtes collectionneur aujourd'hui.
Je suis un faux collectionneur. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses et je cherche pas trop la notion de collection ni d'avoir. Je préfère. Moi, j'étais beaucoup plus dans la notion que l'art, ça devait rentrer chez Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour ça que souvent on m'a dit, mais tu faisais pas les grands tableaux, même quand chez Navarra, je faisais l'édition, donc je m'occupais. Je faisais les estampes, les lithos, les sérigraphies, les gravures, mais je faisais pas les tableaux. Et j'ai continué dans cette voie parce que moi, je suis quelqu'un qui rêve que tout le monde ait chez lui une estampe d'une bonne signature et pas forcément l'art des spéculateurs. C'est pas le mien.
D'où peut-être votre attirance pour cet art urbain que tout le monde peut voir aussi dans la rue.
Mais je pense qu'ils ont fait quelque chose de fabuleux parce qu'ils ont ouvert un coin. Avant, il y avait galerie et institutionnel, disons médiathèque ou musée. Et là, ils ont ouvert un coin formidable parce que Monsieur Tout-le-Monde a tout d'un coup trouvé l'art au coin de sa rue. Alors qu'après, ces artistes aient envie de venir dans les musées, etc.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on assiste à plutôt une évolution de ces artistes qui n'étaient pas forcément bien vus par les musées ou les institutions. Et aujourd'hui, ça y est, ils commencent à rentrer dans les galeries et même dans les musées.
Partout, ils sont rentrés. Ils ont gagné la partie.
Ils ont gagné la partie.
Mais par contre, ils ont ouvert l'art à des millions de gens. Des millions de gens. Quand vous voyez que, par exemple, quand il y a eu le festival du street art à Djerba, qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais entendu parler d'art, qui ont franchi en douce la frontière libyenne pour aller voir ça, on ne peut pas dire qu'ils sont influencés par la mode, par quoi que ce soit. Et les jeunes fonctionnent dessus. Quand vous pensez que les Gazaouis, tous les soirs, se réunissent sur la place qu'a créée Banksy, mais c'est absolument étonnant. Ça n'a rien à voir, et ces gens-là n'achèteront jamais une pièce, et M. Banksy ne touchera jamais un centime. Ça, les gens ne le voient pas. Et si M. Banksy peut faire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, les musées, les galeries vendent ses œuvres. Mais il y a un côté social très important dans les artistes du street art que leurs prédécesseurs, que Corneille, Appel ou ce que vous voulez, n'auraient jamais fait.
Oui, puis il y a cet esprit de liberté aussi que véhiculent du coup ces artistes et qui touche évidemment ces peuples en souffrance, effectivement peut-être plus
que
tout autre artiste.
Quand vous pensez qu'il a choisi une place à Gaza qui était complètement ruiné par les bombes, mais il y avait un pan très haut. Il a fait un chat colossal là, et tous les soirs, les gens viennent avec les lampions, et c'est la place où ils viennent discuter le coup. C'est magnifique. Ça, c'est le vrai forum, c'est la vraie démocratie. Une démocratie, c'est pas la seule, mais c'est une vraie démocratie. Et les street artères, sur ce genre d'opération, on peut compter dessus.
Oui. Et c'est aussi ce message d'espoir que l'art arrive à remettre dans des lieux dévastés, en fait.
Absolument, dans des passions. Et quand vous voyez que dans les ghettos sud-américains, vous avez du street art. Alors là, on voit bien la notion de la frontière de l'urban art, parce qu'en fait, les gens, ces jeunes qui font ça, bon, ils ne sont pas tous bons, mais ça n'a aucune importance. Ça prouve bien que même dans l'urban qui est leur environnement, ce ghetto, ou leur favela, ils mettent... Ils mettent de l'art.
Oui, il y a la notion de communauté aussi, de dire on fait ça ensemble, parce qu'ensemble, on veut aussi s'en sortir, on veut que la vie soit plus belle.
Oui, c'est tout à fait juste. Et vous voyez, par exemple, quand vous allez dans les pays de l'Est ex-soviétique, c'est sinistre, il n'y a rien qui illumine, il n'y a rien qui illustre, c'est tout le temps le même immeuble laid, kaki, horrible. Alors que ces gens-là, qui sont dans des immeubles, qui n'ont pas le centième, quand même, de ce qu'avaient ces gens, dans les régimes totalitaires, ils veulent de l'art. Et ils mettent de la couleur comme des fous. Donc c'est quand même extraordinaire. Ça prouve bien qu'il y a là un phénomène, et c'est pour ça que je m'insurge contre cette idée que ça ne va pas durer, parce que ça correspond à un besoin réel des gens. C'est pas un besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui spéculent, comme toujours, dans tous les domaines, il y a des gens qui spéculent, mais c'est pas pour ça. C'est pas eux qui font le mouvement. Ils accompagnent. Et ils donnent, sans le vouloir, quand même de l'argent à ce mouvement. Et ça permet à ce mouvement de se développer, d'aller de l'avant. Parce que, vous voyez, par exemple, ce courage extraordinaire de Brugier et Gaille, eux, en tant que privés, d'investir parce qu'ils y croient. Et si ça ne marche pas, ils ont tout perdu. Donc c'est formidable.
Oui, il y a une prise de risque, évidemment.
Prise de risque que moi j'adore et que je trouve magnifique de ces gens-là. Et je le reconnais, et je veux le contraire, qu'on le sache. Ce n'est pas du tout juste de dire parce que tel monsieur à la bourse en a acheté 10 John 1.
Merci beaucoup Guy Mock.
C'est moi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Puis comme je suis un passionné, ben, il ne faut pas me lancer.
Ça s'est senti en tout cas. Vous avez parlé avec passion de ces artistes d'art urbain. Donc je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition qui ouvre aujourd'hui au musée de la céramique de Salerne. Donc c'est la maison de la céramique architecturale Terra Rossa dans le Var. Une exposition qui a lieu jusqu'au 1er octobre. Pour découvrir 10 street artistes.
Oui.
Vous vouliez dire un petit mot ?
Juste un mot pour dire qu'on a édité un catalogue qui sera vendu tant au musée, tant auprès de la galerie Bouger-Légaille, que les gens pourront avoir un catalogue montrant ces artistes et expliquant en miroir avec l'étoile ce que nous avons essayé de faire.
Voilà, donc une belle exposition, un beau catalogue pour cette exposition donc, qui a lieu jusqu'au 1er octobre. Merci beaucoup Guy Mock, vous nous avez parlé avec passion de cet art que vous aimez. Et puis eh bien, j'espère qu'on pourra en rediscuter ensemble prochainement. Merci à vous.
Ben moi je serai enchantée, merci.
C'était Hors des cadres avec Julie Chaise-Martin. Retrouvez cette émission les samedis à 11h, également en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com. Également, retrouvez-nous sur notre compte Twitter artdistrict75 et sur notre page Facebook. Très bon samedi en musique, à notre écoute.